dès l'époque païenne, on renforce terriblement le couple conjugal. Donc, évidemment, ça veut dire que monsieur n'existe qu'avec madame, que madame n'existe qu'avec monsieur. Et donc, la personne seule devient problématique, y compris dans le couple fondamental pour la société occidentale. Si vous réfléchissez aussi à la fonctionnement de la société antique, dans la cité antique, certes, on forme une communauté, mais vous avez des micro-communautés qui fonctionnent bien. Vous avez même des individus qui peuvent vivre seuls. Un philosophe cynique, par définition, il n'y a pas grand monde autour. D'abord, ce ne sont pas très bons. Mais vous allez avoir, à la fin de l'Antiquité, cette idée de vivre en dehors du groupe, complètement en dehors du groupe, pour s'isoler, qui devient inacceptable, surtout en Occident. En Orient, ça devient toujours possible. Vous savez, le moine qui vit tout seul, celui qui monte en haut de sa colonne, en Orient, c'est possible. Oui, les stylites, il y en a en Orient. En Occident, il n'y en a qu'un seul. Il y a eu un stylite dans les Ardennes, qui s'appelle Vulfo Laicus, il est monté un hiver, et on a un récit qui nous dit qu'il avait la barbe couverte de glace, un pain de glace qui lui pendait du visage, et que l'évêque de Trèves est allé lui dire, bon, le climat s'y prête pas, mais surtout, c'est antisocial comme activité. Et là, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que partir seul à la recherche de Dieu en Occident, c'est pas du tout ça qui est acceptable pour la société. Vous avez un bon reflet, c'est que l'autobiographie disparaît à la fin de l'Antiquité en Occident. La dernière autobiographie, c'est saint Augustin. Et les confessions de saint Augustin, c'est plus qu'une autobiographie. Et puis après, cherchez-moi les autobiographies. Alors il y en aura ponctuellement, 11e, 12e siècle, Abélard fait quelque chose qui ressemble un peu à une autobiographie, mais c'est quand même quelqu'un de très particulier. Et puis vous retrouvez l'autobiographie, il faut attendre le 16e siècle. Donc on a là encore l'impression que la personne seule n'est pas accepté. Alors évidemment, le christianisme amène à réfléchir à la personne, mais finalement peu à la personne humaine. On va beaucoup réfléchir sur la personne divine. Mais la personne humaine est tellement peu importante par rapport à la personne divine que ma foi, je sais bien que les gens du haut Moyen-Âge ne sont pas de grands philosophes, mais il n'y a pas de traité sur la personne, hein, tout simplement. Alors le mot, est-ce qu'il existe? Comme on va m'en poser la question, je cherche les manuscrits. Alors des manuscrits, il y en a en Occident à partir du 6e siècle. Donc voilà un des premiers manuscrits de droit religieux, la collection de Corbie, le 12097 pour les intimes. C'est un manuscrit sur parchemin et papyrus du 6e siècle, où vous avez des textes nombreux, des conciles, le concile de Nicée notamment, et un édit du roi Childebert Ier, qui est le fils de Clovis. Rue Childebert Ier, c'est pas très loin d'ici, c'est à côté du Panthéon. Si vous prenez cet édit, chouette, on a persona. Vous arrivez à le lire. Donc, il n'y a pas de doute, le mot existe et il est utilisé. Mais comment est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé dans un sens légal. C'est-à-dire qu'ici, on pose la question de savoir quel est le statut des personnes. Et vous arrivez à voir qu'il y a des personnes qui sont de rang ingénois, donc libres, et des gens qui sont de personnes de rang qui est servile. Donc ici, en fait, c'est ça qui intéresse beaucoup les gens du Moyen-Âge, c'est catégoriser les personnes. Donc avec tout ça, on va essayer de partir pour une petite demi-heure pour essayer de voir ce qui peut fonctionner au Moyen-Âge sur ce concept de personne. La théologie, vous allez voir, vous en avez déjà entendu parler, ça ne pose aucun problème. Le droit, je vais essayer de vous montrer que oui, là, la notion de personne juridique a du sens au Moyen-Âge. La personne, pour s'auto-désigner, l'auto-représentation, rare, mais il y a quand même des attestations. Et puis, il y a aussi ce que nous voulons voir, c'est-à-dire dire que les gens du Moyen-Âge n'étaient pas qu'une collectivité et qu'il y avait quand même des gens. Et donc, une somme d'individus qui avaient une personnalité, ce qui est légitime, vous allez voir, mais qui pose quand même quelques problèmes. Alors, je commence comme un concept théologique. Alors, concept théologique chrétien, puisque au début du Moyen-Âge, il y a des païens, des juifs et de nombreuses confessions chrétiennes. Et surtout, au sein des confessions chrétiennes, la question du Dieu en trois personnes a posé des problèmes. Pas tant que ça aux Occidentaux, honnêtement. C'est un problème oriental. Parce qu'en grec, cette conception pose effectivement des vrais problèmes. C'est la notion d'être, d'oussia. Est-ce qu'on peut partager l'être? Donc un problème qui est compréhensible pour les néoplatoniciens. Pour les Occidentaux, c'est plus compliqué. Penser que le verbe « esser » en latin ne pose pas de problème théologique particulier. Et vous n'avez pas eu de grande philosophie de l'être en Occident. Saint-Hilaire, il faut attendre qu'il soit envoyé en exil en Orient pour dire « oui, je comprends mieux le problème des dieux en trois personnes ». Donc le débat existe, mais c'est un débat qui est importé d'Orient, puisque l'arianisme, donc l'hérésie qui va le plus remettre en cause la personne du Christ, ben, c'est l'hérésie d'Arius, Arius, et prêtre d'Alexandrie, et donc un prêtre de langue grecque. Cette conception va quand même avoir un succès important, puisque à partir du IVe siècle, deux visions s'opposent sur les personnes de la Trinité. La version du Concile de Nicée, Père, Fils et Saint-Esprit, complètement divin, complètement égaux, complètement coéternel. La doctrine arienne, qui va être rapidement balayée, hein, une sorte de fils super créature qui est très inférieur au Père, mais très rapidement, une doctrine qui est un arianisme très très modéré, ce qu'on appelle la doctrine homéenne, qui considère que le Père et le Fils sont comparables, mais que le Père est très légèrement supérieur en termes d'intensité de puissance divine par rapport au Fils. Comme les Homéens sont contestés par les Nicéens ne les appelleront jamais vraiment Homéens, ils vont dire en fait c'est des Ariens dissimulés. Et on parlera d'arianisme. Comme une bonne partie des barbares se convertissent dans la foi chrétienne homéenne, on parlera d'arianisme germanique. Alors, il faut faire attention avec ce terme, c'est pas de l'arianisme, puisque en fait Arius n'a jamais dit ça, et c'est pas germanique de pour dessous, puisque c'est l'empereur romain Constance II qui a proposé ça, donc c'est le fils de Constantin qui a lancé cette formule. Donc, on a l'impression qu'il y a deux visions des personnes entre les Romains et les barbares, c'est en fait plus complexe que ça, et les barbares ont été convertis en fait à une confession qui est une confession romaine. On y réfléchit beaucoup au Moyen-Âge. Et donc, je me suis toujours posé la question, tiens, à partir de quand j'ai mes lettres, moi j'aime bien travailler sur les lettres, mes lettres commencent à parler de personnes. Donc ici, par exemple, la lettre de l'évêque de Trèves, Nisier, bah, il est en train d'expliquer à une princesse mérovingienne que ça serait pas mal de convertir son mari, qui est lombard, à la foi catholique. Et il dit à la princesse, bah, t'as qu'à faire comme Clotilde, d'ailleurs, ta grand-mère, qui a eu la bonne idée de convertir Clovis. Et puis, explique à ton mari que, bah, voilà, le fils... quelle est la stature du Christ ? On explique que c'est une personne de la Trinité, que Dieu est triple en personne, mais il est unique en divinité. Donc, une utilisation de textes que Nisier maîtrise, sans plus, hein, très honnêtement, parce que Nisier fait des erreurs théologiques assez importantes. Le manuscrit est entièrement barbouillé à partir du Xe siècle, parce qu'on corrige la théologie de l'évêque Nisier, qui était quand même un peu défaillante. Mais, bon... L'idée est là et ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème en fait si, parce que les Occidentaux ont beaucoup de mal à réfléchir à cette notion de personne. Et donc les Occidentaux ont en fait l'envie d'aborder l'Orient compliqué avec des idées simples. Et que cette hérésie qui vient d'Orient les bloque. Et donc vous allez avoir un roi mérovingien, Chilpéric, un des petits-fils de Clovis, qui en 580 réunit tout le monde et dit « bah, tout le monde se fâche pour ça, il suffit que les évêques ne distinguent plus les trois personnes dans la Trinité. » Ce qui est beaucoup plus simple. Et il dit, ben regardez dans l'Ancien Testament, on ne mentionne que Dieu. Et ben, comme vous êtes les héritiers des prophètes et des patriarches, vous les évêques, vous n'avez qu'à dire Dieu, et comme ça, ça enlève l'air. Alors inutile de vous dire que Grégoire de Tours, le grand chroniqueur du VIe siècle, fait ses gorges de jeu chaude de ce roi qui n'a rien compris. Enfin, il n'est sûrement pas le seul à avoir rien compris. C'est-à-dire que le sujet est complexe. Parmi les gens qui ont le mieux compris, vous avez les Visigoths. Alors, les Visigoths sont des barbares installés en Espagne, qui sont chrétiens, même très chrétiens, qui font des monastères, des églises, mais qui sont dans la doctrine homéenne jusqu'à la fin du VIe siècle. À la fin du VIe siècle, les Visigoths ont une difficulté, c'est-à-dire que l'intégralité de leur... la quasi-intégralité de leurs sujets sont catholiques et donc pensent le Dieu en trois personnes qui sont coégales et coéternelles, et eux considèrent qu'une des personnes est inférieure. En fait, deux personnes, hein, puisque le Christ et le Saint-Esprit sont inférieurs. Léovigilde, roi des Visigoths, qui est le roi qui unifie la péninsule, propose une idée toute simple. Il a des sujets catholiques, il a des sujets homéens, deux visions différentes de la Trinité. Léovigilde réunit tout le monde et dit bah, « chacun va faire un petit pas vers l'autre ». Et donc, le Père et le Fils sont égaux, mais pas le Saint-Esprit. Alors là, ben ça marche en fait, ça marche un petit peu. Pendant 5 ans, il a réussi à obtenir quelques conversions. C'est pas le premier à avoir cette idée, hein. C'est un évêque de Constantinople qui s'appelait Macédonius qui avait lancé la première fois l'idée. Et voyez que ça coince du côté des occidentaux, cette idée-là, et que finalement, quand le catholicisme s'impose, le fils de Léo Vigilde devient catholique, ça rassure tout le monde parce que la pensée de la personne est une pensée un peu étrangère à la théologie occidentale. Tout le monde finalement s'accorde en Occident sur des idées relativement simples. Le Christ est une personne divine, mais sans qu'on définisse trop clairement ce que c'est que cette notion de persona. Et le personnage historique de Jésus comprenait à la fois des éléments divins et humains, mais des éléments humains qui ne posent aucun problème en Occident. Lorsque, ici, vous avez des hérétiques homéens qui représentent le Christ, mais ça serait des catholiques, c'est la même chose en Occident, l'idée est de représenter un Christ totalement homme, et jusqu'à ses attributs sexuels. Donc il ne s'agit pas du tout de faire du Christ une créature céleste, il est pleinement homme, et ça ne pose aucun problème avec l'idée que, évidemment, c'est quand même le Fils de Dieu. Vous comprenez pourquoi les Occidentaux vont ne pas comprendre quand les Orientaux lancent une nouvelle idée. C'est l'idée que la personne du Christ est composée d'éléments divins et d'éléments terrestres qui forment, en grec ça fonctionne bien, des natures. Donc à l'intérieur de la personne, pensez les natures, est-ce qu'il y a deux natures, est-ce qu'il y a une seule nature dans le Christ? Alors d'abord, c'est très difficile à traduire en latin. Donc diphysisme, monophysisme, ça ne passe pas bien. Vous voyez les latins qui sont obligés d'utiliser les mots grecs. À une époque, on ne parle plus le grec, hein, vraiment, 5e, 6e siècle. En outre, si vous regardez les endroits où ces idées partent, Antioche, Alexandrie, alors évidemment le concile de Chalcédoine, Constantinople, Justinien est installé à Constantinople, ce ne sont que des sites orientaux. Les occidentaux sont perturbés par l'idée qu'il faille décomposer absolument la personne du Christ et poser la question des rapports entre le Christ homme et le Christ Dieu. Lorsque le pape Vigile est sollicité, il ne veut pas toucher dans un premier temps aux formulations qui ont été faites par les deux premiers conciles œcuméniques. Bon, il va être arraché à l'autel auquel il était accroché, traîné par Justinien pour signer le texte du concile œcuménique de Constantinople de 553, mais les occidentaux ont bloqué très clairement sur cet aspect-là. Et toute l'Italie du Nord entre en schisme parce qu'elle refuse absolument qu'on retouche à la question de la nature du Christ. Vous avez donc à partir de ce moment-là un certain nombre d'évêques qui se posent des questions en se disant que, ben, ma foi, la personne, c'est compliqué dans la personne de Jésus, et puis de toute façon, ça n'a aucun intérêt pour les hommes. Et c'est ce qu'explique, par exemple, un évêque qui s'appelle Aurélien, qui vit en Italie du Nord, lorsqu'il écrit à un roi qui descend de Clovis, là encore, Théodbert Ier, et il dit, bon, ben, les personnes, c'est bien sympathique, mais à la fin des temps, il n'y a plus de personne. Tout le monde est devant Dieu, il n'y a pas de distinction de personne. Les rois, les esclaves, tout le monde se retrouve devant Dieu. Alors, il dit même que les anges, quel que soit le grade des anges, il n'y a pas de distinction, tout le monde va être jugé au moment du jugement terrestre, au jugement dernier. Donc, finalement, pourquoi considérer les personnes? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, ça m'intéresse quand même, cette affaire-là, c'est que ce que dit Aurélien, c'est que la distinction selon la personne, c'est une affaire juridique et de juridiction terrestre. Sur la Terre, la persona, c'est en gros le niveau social de l'individu. Et que, évidemment, devant Dieu, il n'y a pas de niveau social. Donc ça me permet de glisser au deuxième point. Mais il y aura quatre parties, je suis désolé. Ça fait longtemps que je suis sorti de classe prépa. Moi, la persona, c'est une façon de considérer la façon dont on est inclus dans la violence et dans le règlement de la violence. Et là, j'ai de la documentation, si vous voulez. Parce que c'est là que vous avez vu que Childebert, au moment de régler un problème, disait, selon la persona, voilà comment on juge. Les esclaves sont fouettés, les hommes libres vont subir une épée. Alors, la violence, elle existe au Moyen-Âge, il n'y a pas de doute. Là, la violence, elle est présente. Plutôt sur la fin du Haut Moyen-Âge, mais elle existe, j'aurai l'occasion d'en reparler. Cette violence va concerner finalement pas des gens qui sont perçus comme des personnes. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a justice, lorsqu'il y a éventuellement sacrifice humain, ce sont quand même très rares, lorsqu'il y a des peines appliquées aux esclaves par leur maître, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la violence légitime, on ne considère pas que celui qui subit la violence légitime ait des droits. Votre princesse me posait la question de la dignité humaine. Ben non, là, il n'y a pas. C'est-à-dire que, très clairement, si, et je vais faire mon Max Weber, vous êtes soumis à la violence légale de l'État, mais également à la justice du représentant de l'État ou à la justice du maître, l'esclave est justiciable devant son maître, là, bah, écoutez, il n'y a pas de dignité humaine. C'est ce que pense l'empereur Constantin. Hein. Constantin explique que si des maîtres, en battant leurs esclaves, les tuent, on ne va quand même pas faire un procès. Ils sont en train de casser leur mobilier. Et donc, voilà, et tout simplement, il n'y a pas de personne de l'esclave. L'esclave n'a pas de condition juridique. Ça va s'améliorer, hein, la christianisation s'opère lentement. À partir du 6e siècle, l'évêque Césaire d'Arles dit, par exemple, au-delà de 39 coups de fouet, c'est un homicide. C'est la première loi sociale qui apparaît en Occident. Hein. Donc ici, vous avez des évolutions qui s'opèrent, et le statut de l'esclave s'améliore très nettement grâce à la christianisation. Mais en fait, ici, la violence, qui est la violence d'État, ne touche pas des personnes, véritablement. Les observateurs ne remettent pas en cause cette affaire-là. C'est la violence privée qui va plutôt là à mettre une réflexion sur ce qu'on va appeler aujourd'hui la violence interpersonnelle, et donc vraiment les personnes. Alors, c'est une forme de violence parmi d'autres, traces qui ne sont pas si nombreuses, hein, puisque des jolis crânes qui ont pris un coup d'épée, alors c'est le symbole de la violence barbare, on a moins de 0,2% des corps qui présentent des traces de violence au Moyen-Âge. Donc la violence n'explose pas à la fin de l'Antiquité. Il y a beaucoup moins de traces de violence entre les personnes au début du Moyen-Âge qu'il y en a au XIVe, XVe siècle. L'époque de la guerre de Cent Ans est beaucoup plus violente que ce qu'on appelle les temps barbares. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les barbares, avec leurs possibilités limitées, donc les francs mérovingiens, les visigoths en Espagne, les burgondes dans la vallée du Rhône, montrent ce que les historiens ont beaucoup travaillé, c'est des modes de résolution des conflits. Conflits, c'est-à-dire que lorsque deux personnes se fâchent pour une raison ou pour une autre, il va y avoir tension. Et là, il y a des modes de résolution où on va considérer les personnes. C'est le cas notamment si l'État choisit de s'en mêler. Donc vous pouvez avoir de la justice exécutoire. Là, on va regarder les personnes, on va appliquer le droit, on va convoquer les personnes en procès et on va éventuellement appliquer une sentence. Là, le droit va devenir personnel. C'est-à-dire que les peines sont graduées selon le statut de la personne. C'est ce que disait l'évêque Aurélien. Au ciel, il n'y a pas de considération pour la personne. Sur la terre, dans le droit romain, mais dans le droit barbare également, vous êtes jugé selon votre statut. Alors vous pouvez avoir deux conditions dans le droit barbare, vous êtes soit puissant, soit pauvre. Oui, ça ferait peut-être plaisir aujourd'hui à l'extrême gauche, mais en fait c'est très compliqué parce qu'en fait vous pouvez être puissant et pas avoir beaucoup de puissance, vous pouvez être extrêmement riche et être catégorisé comme pauvre. Un marchand est pauvre, un moine est pauvre, mais il peut contrôler une grande richesse. Un aristocrate est forcément puissant, mais il ne peut pas avoir 300. Peu importe. Ça veut dire que selon votre statut de persona, vous êtes soumis à ce qui va vous frapper le plus. Donc les puissants sont soumis à amende. Généralement, confiscation de terre, parce que c'est la terre qui produit l'argent. Donc on vous prend votre terre et on la met dans la terre publique. La terre publique, ça s'appelle le fisc. C'est pour ça que ce terme de fisc apparaît. Et on peut vous toucher dans l'honorabilité. Donc on vous rend personne infâme. Donc là, la notion de personne marche bien. Infamia, ça vous touche dans votre persona. Dans les cas très graves, on vous tue. Mais c'est pas fréquent. Les barbares et tout le Moyen-Âge n'aiment pas la peine de mort. Globalement, ça a été pas mal travaillé. En gros, le Moyen-Âge n'aime pas la peine de mort. Il y a un cas particulier, c'est le Royaume d'Angleterre, où on exécute assez souvent. Mais en France, non. Alors, il se trouve que la culture de masse, les grandes séries sont faites en Angleterre et aux États-Unis. Donc, Game of Thrones, vous voyez des morts partout. En France, dès qu'on peut éviter l'exécution capitale, on l'évite. Sauf dans des cas très rares, le lèse-majesté, si vous faites un coup d'État, le faux monnayage. Alors ça, c'est terrible. Et quand j'étais petit, sur tous les billets, il y avait écrit que vous serez décapité si vous faites... c'était peine de mort. Hein. Je vous rappelle que jusqu'en 1980, la peine de mort était pratiquée en France. Comptez bien, moi je suis né avant 80. Hein. Oui, il y avait la peine de mort possible pour le faux monnayage. Et le pire, c'est l'astrologie. Alors, l'astrologie, pourquoi ? Parce que ça sert à prédire l'avenir et à prédire la mort du roi, essentiellement. C'est de l'astrologie. Donc, là, vous avez des personas qui peuvent être tués. Le pauvre, bah, sa persona n'a aucune valeur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez le faire ? Des châtiments physiques, vous le touchez dans son corps, mais pas dans son image. La persona, c'est une image. Vous pouvez l'humilier quand même. Alors, c'est pas facile. Mais quand vous êtes pauvre, il y a toujours des trucs qui peuvent vous toucher dans votre image publique. Par exemple, loi des Burgondes, si vous voulez un chien, vous êtes obligé d'embrasser le postérieur du chien pour l'assembler. Voilà, ça doit être assez dissuasif comme système. Vous voyez, la peine de mort n'est pas appliquée, il n'y a pas de temps. Et puis, évidemment, l'État essaie d'y gagner, donc les riches, on leur prend la terre, on la met dans le fisc, les pauvres, ben, on les prend, tout simplement, ils sont en esclave du fisc. Donc, ça, c'est l'idéal, le traitement selon la persona. Alors, le problème, c'est que les barbares ont un État, mais un État très faible, qui ne peut agir que dans des cas très rares. Il faudrait d'ailleurs que les puissants personnages que l'on traîne en procès veuillent bien venir, et que le juge ne soit pas corrompu, ce qui n'est pas fréquent. Alors, la solution que trouvent les barbares, c'est d'obliger les gens à... Ben finalement, on ne va pas les obliger à s'humilier devant l'État, devant l'opinion publique, ou à verser au fisc, mais à se réconcilier. C'est ce qu'on appelle la justice arbitrale, qui existe toujours dans le droit anglo-saxon. C'est-à-dire que vous obligez la partie attaquante à verser des dommages et intérêts très importants à la partie victime. Des amendes de composition existent, sont fixées par le droit barbare, ce qu'on appelle le vergel, le prix de l'homme, parce que ça concerne surtout des meurtres. Alors c'est très simple, vous tuez quelqu'un, et hop, vous donnez au père de votre victime une certaine somme, et ça marche. Alors là, ça m'intéresse, parce que ça veut dire qu'on va beaucoup réfléchir à l'image publique des gens, et donc aux atteintes qu'on peut faire à la persona. Donc, comment vous pouvez blesser quelqu'un et comment vous pouvez compenser? Alors, si vous prenez les lois barbares, vous allez donc estimer absolument tous les torts. Donc, évidemment, la mort des gens, mais également la moindre mutilation. Et voyez, si vous coupez une main, si elle n'est pas détachée, si elle a juste le gros orteil qui tombe, ça n'a pas la même valeur. Et là, voyez les atteintes, finalement, à la personne qui s'opère. Si on regarde dans l'ensemble, en fait, selon votre ethnicité, si vous êtes franc ou barbare ou romain, selon votre statut juridique, vous êtes libre, demi-libre, pas libre, selon que vous soyez riche ou misérable, puissant ou pauvre, selon le fait que vous soyez homme du roi, convive du roi, c'est bien, j'ai mangé avec vous, donc ça veut dire que si je vous blesse, j'ai droit à une amende de composition qui... tout ça veut dire que vous allez avoir des vergels différents. Et là, vous voyez la valeur des personnes et des individus. Or, qui vaut le plus dans une société, c'est les femmes. Donc, dans la société romano-barbare, les vergels les plus élevés, c'est si vous blessez, ou pire, si vous tuez une femme jeune. C'est tout à fait normal, vous tuez la femme et les enfants qu'elle aurait pu avoir. Puis, vous allez avoir les gens qui sont considérés comme importants, les fonctionnaires, et encore de la fonction publique jusqu'au 8e siècle, et les ecclésiastiques. Par contre, évidemment, des esclaves ou des étrangers, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et vous comprenez ici que les vergels permettent de classer les personnes. Et donc, il y a une valeur de la personne. Donc, vous me posiez la question s'il y avait une dignité humaine. Je vous réponds oui, mais pas la même pour tous les êtres humains. Ce qui ne pose pas de problème si les gens acceptent de verser l'amende de composition. Seulement, évidemment, si je frappe la princesse Tala, je n'ai pas forcément envie de payer. Et comme je cours vite, j'ai des chances d'échapper à la justice. Dans ces cas-là, votre persona est touché. Votre honneur est touché, mais moi, je m'en suis sorti. Alors, les barbares ont quand même une solution, c'est la justice infra-étatique. Là, vous pouvez rattraper les atteintes qui sont faites à votre personne, soit en demandant à un puissant personnage d'intervenir en dehors de l'État, ce qui peut arriver, soit surtout en vous vengeant. La vengeance, ce n'est pas une affaire d'individu. Car j'ai tapé très fort. La princesse Tala est à l'hôpital. Ce qui veut dire que c'est le groupe qui réagit. Et là, vous comprenez que ce n'est pas l'individu qui joue. C'est un groupe qui est uni par une valeur qui est quantifiable, qu'on appelle l'honneur. Et cet honneur qui est quantifiable, c'est justement ça qui va vous pousser à réagir contre moi. On va donc avoir des réactions de groupe dans les sociétés du Moyen-Âge, pas des réactions d'individus. Et c'est pour ça que l'individu existe moins parce que finalement les affaires, les grandes affaires de vengeance concernent des groupes. Roméo et Juliette, c'est pas Roméo et Juliette, c'est les Capulet et les Montaigu. Et c'est ça qui véritablement fonctionne. Alors comment ça se passe? Normalement ça se passe par équilibrage. J'ai tapé sur quelqu'un, vous me tapez dessus. Et c'est ça qu'au Moyen-Âge, on fait généralement. Quand j'ai tapé et vous me tapez dessus, ça s'appelle la paix au Moyen-Âge. C'est la définition, c'est-à-dire, bon, ben, voilà, c'est pas bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre, mais voilà, on a évité les grosses catastrophes. Ce qui va poser problème dans la justice médiévale, c'est que ça commence petit, vous voulez un petit quelque chose, ça continue par des atteintes, généralement aux animaux, les chiens c'est quand même précieux, puis après vous touchez aux esclaves, et puis ça finit par un meurtre. Et là, c'est le vrai problème. Dans ces cas-là, ça s'appelle la faïde. La faïde, c'est un déséquilibre dans la vengeance. Donc, c'est ce qu'on appelle la vendetta actuellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre deux groupes, généralement deux familles, mais ça peut être deux associations, deux groupes d'amis, on multiplie à l'extrême les violences. Et dans ces cas-là, ben, évidemment, ça risque de perturber toute la société. Société, hein. Les individus, ben, s'il y a un mort de chaque côté, c'est pas grave. L'État n'intervient pas pour un mort de chaque côté. C'est s'il y a un mort et ça crée trois morts de l'autre côté. Alors là, l'État intervient et c'est généralement là que vous avez les procès au Moyen-Âge. Pas au premier mort, mais quand ça commence à devenir véritablement problématique. L'État reste très faible au Moyen-Âge. Et c'est pour ça que bien souvent, il faut trouver des solutions. L'inaction. On vous attend dans votre persona, vous faites rien. Parce que sinon, si vous n'avez pas un groupe assez important pour vous venger, vous êtes humilié. Et donc, les rois se plaignent régulièrement qu'on ne dénonce pas les crimes. Bah oui, on comprend, parce que si vous dénoncez, vous passez pour un imbécile, et puis c'est fini. Dans ce monde médiéval, il va donc falloir trouver un justicier. Alors, Zorro n'ayant pas été inventé, Dieu est là, dans la société médiévale. Il va jouer un rôle fondamental. Donc, la justice devient très souvent supra-étatique au Moyen-Âge. Donc, c'est la justice eschatologique. Si j'ai fait un tort très fort, c'est ce que dit l'évêque Aurélien. Sur la terre, on peut me soumettre à amende, mais Dieu, lui, ne considérera pas ma persona juridique. Il va me considérer en tant qu'individu, et donc ben, je vais être soumis à la justice de Dieu. Vous allez avoir ben, des miracles, bien entendu, qui peuvent provoquer la mort du fautif. Les récits de miracles du Moyen-Âge, c'est souvent des miracles de châtiment, ce qui permet à la société de dire « il y a eu une intervention quand même ». On n'a pas considéré que la personne était puissante ou misérable, le coupable est bien mort et Dieu est intervenu. Vous avez le pardon et la pénitence. On développe la pénitence au Moyen-Âge comme un moyen d'éviter les vengeances. C'est des pénitences longues, hein. C'est 3 ou 4 ans au pain sec et à l'eau, hein. Donc si vous avez fait quelque chose de très très mal, vous pouvez compenser. Et dans ces cas-là, bah, vous êtes atteint dans votre persona. Vous vous humiliez devant l'ensemble de la société et vous compensez votre crime. Mais ça tue personne. Et il est prévu qu'après un temps de pénitence, vous réintégriez la société. Donc c'est une solution qui va permettre d'éviter les problèmes majeurs. Et puis évidemment, vous savez qu'il y a les solutions qui vont permettre de faire intervenir Dieu au Moyen-Âge, notamment l'ortalie. Donc si on passe devant la justice étatique, ce qui est très rare, et que vous avez des gens qui vont jurer et qui ont un niveau social équivalent, donc un niveau de persona équivalent, le juge ne sait pas qui ment, ne peut pas dire il y en a un qui est plus important que l'autre et donc sa parole a plus de poids. Et donc c'est là qu'on amène l'eau bouillante, hein, généralement. Donc c'est le chaudron, généralement, l'épreuve du chaudron. Donc le juge jette son anneau dans un chaudron d'eau bouillante et dit, bah, écoutez, vous plongez la main, celui qui sortira l'anneau, c'est celui qui aura été protégé par Dieu. Vous avez dans quelques cas le duel judiciaire. Là, les gens se battent et c'est, en théorie, Dieu qui décide qui va avoir raison et donc qui ne sait pas parjurer. L'ordalie, c'est un peu plus complexe que ça. Les médiévistes ont beaucoup travaillé dessus depuis une trentaine d'années et se sont rendus compte que les ordalies n'ont pratiquement jamais lieu. En fait, c'est extrêmement adroit comme processus, puisque l'idée, c'est de dramatiser à l'extrême l'ordalie. Donc on dit ordalie dans 40 jours. Et jamais le matin, c'est toujours le soir. Donc vous imaginez la pression psychologique. Hein. Donc on vous dit, attention, le soir, vous allez tremper la main dans l'eau bouillante. Hein. Et il y en a un des deux qui a menti. Et celui qui a menti, il sait très bien qu'il a menti. Et on est quand même dans une société totalement chrétienne. Vous avez menti devant Dieu. Alors dans le feu du procès, vous êtes prêt à raconter n'importe quoi. Mais on vous laisse mariner pendant 40 jours. Et en vous disant, vous allez subir les peines de l'enfer. Donc en fait, l'ordalie, c'est assez génial. C'est la procédure qui fonctionne parce qu'on ne l'utilise pas. Parce que généralement, jusqu'au bout, le juge dit « Attention, si vous dites que vous avez menti, bon, on repasse à la négociation. » Et c'est une façon de repasser à la justice arbitrale. C'est le détecteur de mensonges, si vous voulez. Et ça fonctionne bien. Alors, donc ici, ça permet aussi d'éviter de torturer. on n'aime pas spécialement torturer au Moyen-Âge. Il y a plein de solutions. Donc là, c'est de l'autotorture. Si vous voulez vraiment y aller, pourquoi pas? Il y a quelques crétins qui vont jusqu'au duel judiciaire, mais c'est exceptionnel, hein. Il faut vraiment être stupide. La justice fait tout pour pas que vous soyez touché dans votre corps. Alors, il y a des heures d'avis qui sont aussi plus drôles, hein. Pour vraiment être sûr que ça ne soit pas violent, vous avez l'heure d'avis du fromage sec. Quand quelqu'un a menti, enfin, quand quelqu'un a volé, en fait, hein, quand quelqu'un a volé dans une petite communauté, notamment dans une communauté monastique, le supérieur amène des tranches de fromage de chèvre sec et donne à manger à tout le monde en disant « Celui qui tousse, c'est celui qui a menti. » Là, vous voyez, vous êtes un peu humilié et on ne vous fait pas de mal. Bon, tout ça vous amène à penser que l'individu que je suis en train de chercher, il est un peu dilué dans tout le reste. Hein. C'est-à-dire que qui c'est qui fait pression devant la justice? C'est la famille. L'Église intervient, parce que tout ça est béni, l'Église intervient, notamment en payant les amendes, hein, très souvent. Le palais intervient, la personne, très peu, en fait. Donc la persona existe, l'individu en tant que personne, je suis plus hésitant, parce qu'en fait, c'est des familles, c'est des conflits de familles, et le but est de réconcilier les familles. Bon, là, j'ai pas trop trouvé la personne. Finalement, est-ce que les gens se définissent comme personne au Moyen-Âge? Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait être « moi, je » et « je suis une personne » avec ma dignité, mon importance? Alors là, les historiens sont fâchés. Très souvent, les historiens aiment bien se fâcher. Il y a deux visions. La vision de la sociologie historique type Philippe Ariès. Je vous rappelle, Philippe Ariès a quand même été pas mal remis en cause. Hein, celui qui dit que l'amour filial ne commence qu'au XVIIIe siècle. Je dis un peu ça. Mais surtout les disciples de Philippe Ariès sont un peu poussés en disant « écoutez, au Moyen-Âge, il n'y a que le groupe qui compte ». Et c'est pas faux, hein, avec tout ce que je vous ai dit. Le groupe compte. Mais vous avez d'autres historiens, notamment Aaron Gourevitch, qui a dit que l'individu moderne prend vraiment naissance dans l'Europe médiévale. Alors quand vous dites ça, dans les années 70, sous Khrouchtchev, c'est pas une bonne idée en Union soviétique. Il a fait 3 ans de camp de travaux forcés pour avoir fait ça. Mais bon, disons qu'il y a des débats qui sont parfaitement légitimes. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, ça dépend de la source. Vous savez qu'en histoire, on aime bien les sources. Alors, si vous prenez la théologie, la littérature, la géographie, ben non, il n'y a pas des gens qui disent « moi, je, moi, je, moi, je ». Si vous prenez d'autres textes, notamment les historiens, pas la partie centrale de l'histoire, mais la préface ou la fin, prenez Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, il est quand même assez content, lui. C'est l'évêque de Tours, et il écrit « j'ai écrit 10 livres d'histoire. Je suis le premier à avoir fait de l'histoire depuis la chute de Rome. » Il a écrit 7 livres de miracles, il a écrit un livre des pères, il a commenté tout le psautier. C'est pas mal quand même. Hein. Écoutez, donc c'est moi, c'est ma personne. Et il dit, écoutez, c'est tellement bien que si jamais vous faites détruire mes livres, je vous condamne devant le jugement terrestre, parce que la SACEM n'existe pas, mais je vous appelle devant le jugement éternel. Et donc si vous modifiez mes livres, Dieu interviendra pour protéger ce que moi j'ai fait. Là, je pense que la personne existe, si vous voulez. Donc là, c'est pas le groupe, c'est Grégoire, en tant qu'évêque de Tours, qui est quand même assez content de lui. Vous avez des femmes, aussi, qui sont relativement satisfaites de ce qu'elles ont fait, ou pas satisfaites, mais en tout cas, qui disent « je », et qui le disent très clairement. Donc ici, c'est une aristocrate qui s'appelle Duoda, qui écrit le premier traité pédagogique du Moyen-Âge. Il n'est pas extraordinaire, très honnêtement, mais enfin... Elle connaît saint Augustin, elle connaît saint Ambroise, elle a lu un petit peu de Grégoire le Grand, elle fait quelque chose qui est pas mal. Et de temps en temps, elle s'arrête et elle dit, voilà ma propre expérience à moi. Elle dit, par exemple, j'étais malade, elle semble qu'elle soit infirme, j'ai pas assez prié, mais toi, fais-le. Et puis, de temps en temps, elle s'arrête complètement et elle dit, la famille, elle a participé à pas mal de guerres civiles. D'accord, c'est mon mari qui se bat. Mais les emprunts, c'est moi qui les ai faits. Hein. Et donc, elle dit, je suis malade, je risque de mourir. Donc, c'est moi qui me suis endetté. Toi, mon fils qui reçoit le traité pédagogique, tu penses à payer les dettes. Hein. Là, je pense qu'il y a aussi une vision de la personne et pas du groupe. C'est pas la famille, c'est Duoda en tant que femme qui parle et qui dit, moi, je. Alors, tout ça veut dire que de temps en temps, vous avez des moyens d'exprimer votre personne. Alors, vous avez lu, j'aime bien les lettres. Alors, il y a un style qu'on appelle le style épistolographique au Moyen-Âge, donc c'est le plaisir d'écrire des lettres pour le plaisir d'écrire des lettres. Ces lettres qui n'ont aucun contenu. Hein. Il vient de dire, je t'ai envoyé une lettre, t'as vu si elle est belle, j'espère que tu te portes bien, au revoir. Pour ceux qui ont traduit Pline le Jeune en cagne, c'est Pline le Jeune, c'est le sommet de la pensée humaine. Hein. Donc c'est des lettres qui servent à faire du réseautage, hein, purement. Or, dans ces lettres, il y a du jeu partout. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur quelqu'un qui s'appelle Gogo, qui m'a beaucoup amusé. Donc, le comte Gogo, c'est un haut fonctionnaire mérovingien qui prend un nom de plume. Donc, il s'appelle sûrement pas Gogo, c'est son pseudo dans le réseau social. Et on a gardé quelques lettres du comte Gogo. Bon, ben, Gogo, c'est moi, toi, moi, toi, moi, toi. Donc, il adore le duc Chamingus. Et il dit, ben, je pense à toi tout le temps. On aime bien parler de l'amour. Je rêve de ton corps. Alors, il n'y a pas à chercher le moindre chose de gay. Hein. C'est un code de littéraire. Mais ici, quand même, c'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est sa persona double. Il rêve de son corps, mais le corps n'est que le reflet de l'âme. C'est très platonicien. Donc ici, vous avez ici la beauté, et on rêve de la beauté de l'autre. Bon, ben là, je dirais que la personne de Chamingus, elle existe quand même dans la tête. Alors, vous pouvez prendre aussi d'autres lettres. Par exemple, à l'époque carolingienne, à l'époque de la Grande Guerre civile, vous savez, la bataille de Fontenoy entre les petits-fils de Charlemagne, vous avez quelqu'un qui a choisi un camp, puis un autre camp, puis un autre camp. En gros, c'est le traître patenté de la guerre civile. Or, il nous laisse des lettres pour expliquer pourquoi il a changé de camp. Alors, à chaque fois, il dit « je ». Bah, il dit bah, « je m'étais engagé dans le camp de Lothaire Ier, bah, j'ai pas été récompensé, je voulais la paix, enfin, je voulais sa paix à lui, j'ai pas été payé, et ben, je suis pas l'émule de démons, je suis comme tout le monde. » Regardez ce qu'il dit, ben voilà, je veux obtenir ma justitia, c'est-à-dire un poste de haute fonction publique. Si je ne l'ai pas, je change de seigneur, et moi, et moi, et moi, et moi. Bon, ben là, effectivement, dans un traité de théologie ou dans une vie de saint, l'auteur ne dira jamais ça. Mais là, vous avez quand même des témoignages qui me semblent assez instructifs sur cet individu qui existe au Moyen-Âge et qu'on est capable de mettre en avant. Ce n'est pas la famille d'Adalard qu'on connaît très bien, c'est Adalard en tant que personne qui parle. Et je termine par un dernier temps, par le regard qu'on peut avoir sur ces personnes. Est-ce que, quand les gens meurent, on les considère encore comme des personnes ? Alors, quand ils viennent juste de mourir, est-ce qu'ils restent finalement une persona, avec une personnalité, avec une individualité, ou est-ce qu'ils ne sont que des défunts en attente de ça ? Alors, on peut débattre, parce que ce n'est pas évident. Vous avez le dossier des épitaphes. On a beaucoup d'épitaphes, notamment pour le premier du Moyen-Âge. Alors, c'est des formulaires, hein, généralement. Donc, vous mettez le nom, vous mettez avec le temps d'année. Mais de temps en temps, les épitaphes dépassent un peu ce qui est attendu. Donc, ici, c'est une jeune fille qui s'appelait Eusébie. Donc, on nous dit des choses assez évidentes. Hein. Il faut faire rentrer ça dans le vers latin. Vous savez, l'extension du vers latin, ça ne permet pas de dire grand-chose. Mais là, on nous dit quand même qu'elle est métissée et qu'elle elle savait écrire et qu'elle savait broder des lettres sur le fil. Et qu'elle faisait des beaux vêtements avec des inscriptions chrétiennes sur le bord des vêtements. Bon, ben là, c'est quand même touchant, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous dit ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a connu Eusébie et qui nous dit que, ben oui, c'était quelqu'un qui était extraordinaire, qu'elle est morte très jeune, mais qu'elle aurait sans doute été une femme extraordinaire. Vous allez avoir des textes qui sortent complètement de l'ordinaire. Alors, par exemple, les évêques peuvent être mariés au Moyen-Âge. Du moins, ils peuvent avoir été mariés avant de devenir évêque. Et la femme de l'évêque font plus dit commun, mais la femme de l'évêque, c'est quelqu'un d'important. Et là, bah, ici, vous avez des textes disant, mais elles ont fait quand même des choses fantastiques, hein, les femmes des évêques. Et donc, bah, voilà, tant qu'elle a été femme de l'évêque, elle a fait des choses bien. Et puis, maintenant, elle est montée au ciel, elle a rejoint son mari. Vous avez des épitaphes de couple. Alors, c'est un formulaire classique, c'est très romain. Hein. Mais là, c'est plus que simplement le petit formulaire en disant, bah, un tel a vécu d'un tel. Hein. Non, là, ici, ils se sont aimés toute leur vie, ils ont vécu ensemble toute leur vie. Ils se sont aimés, et puis maintenant ils sont morts, et ils habitent ensemble la même église, c'est-à-dire qu'on les a enterrés côte à côte. C'est quand même assez émouvant, en sachant que c'est le petit-fils de ce couple qui fait l'épitaphe, et qui sait très bien que bah, c'est des grands-parents qu'il a aimés. Donc on a parfois des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis, bah, je termine peut-être par ça, vous avez quand même le traitement des cadavres, qui montre que les corps, bah, c'est pas juste de la chair humaine. On a quand même, en Occident, en Orient aussi, mais en Occident, on le voit beaucoup mieux peut-être, un traitement particulier des défunts pour lesquels on aimait. On avait de l'amour. On va les déposer dans des tombes de prestige, hein, généralement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le christianisme change, hein, la pensée chrétienne change, l'idée qu'on se fait du devenir de l'âme évolue progressivement, et on voit le traitement des cadavres évoluer également. 5e siècle, on est dans une pensée très romaine. Ce qui compte, c'est d'en mettre plein la vue aux voisins. Le ciel, bon, voilà, mais non. Ce qui compte, c'est les voisins. Donc on fait des sarcophages en marbre. Ça coûte très cher. Alors le marbre à Paris, donc ici je veux montrer que des tombes parisiennes. On le fait venir des Pyrénées. Ça fait quand même, pour le 5e siècle, en pleine période d'invasion barbare, arriver avec les blocs de marbre, c'est quand même un bel investissement funéraire. À l'intérieur, on va déposer les cadavres. Alors là, par contre, avec un traitement qui est quand même individualisé. Donc, on les dépose habillés, avec des bouquets, avec des petits bijoux, avec des petites attentions. Donc là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui mérite l'intérêt pour le défunt. 5e siècle et 6e siècle, on va changer de matériaux. Le marbre, ça coûte vraiment très cher. Et les Parisiens se mettent à se dire que finalement, macomoulage, c'est pas mal. Vous savez, vous prenez un moule, vous glissez du marbre dedans, réduit en poussière, vous faites du stuc. Et donc, on fait des sarcophages en plâtre ou en stuc. C'est à peu près aussi joli. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au 6e siècle, regardez les décors. C'est pas juste pour en mettre plein la vue aux voisins, ce sont des décors chrétiens. Là, la pensée est vraiment chrétienne. Vous avez des crises. Vous voyez sur le panneau du bas, vous avez deux colombes qui boivent à un cantar. C'est le symbole de l'immortalité chrétienne. Vous voyez au-dessus de cette coupe cantar, donc ce qui va donner le calice liturgique, vous avez la sainte face, la face du Christ. Donc ici, l'idée que le défunt est placé sous la protection du Christ dans l'attente de la résurrection. À l'intérieur du sarcophage, parfois, vous avez des représentations christiques. Là, ça veut dire qu'on appelle vraiment sur le défunt la protection de Dieu. Ce qui n'interdit pas d'en mettre plein la vue aux voisins. Hein. Donc, on continue de déposer beaucoup d'objets dans les tombes. Donc, à Saint-Denis, par exemple, ici, une reine mérovingienne nommée Arnégonde a été déposée, alors pas avec n'importe quoi. Elle a été déposée avec beaucoup de bijoux, mais c'est des bijoux qui ont sûrement du sens pour elle. Regardez, elle a été déposée avec une extraordinaire boucle de ceinture, mais ce n'est pas elle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les deux fibules circulaires. Vous voyez, les deux fibules, c'est les broches qui servent à attacher la tunique en haut. C'est des objets très personnels. Vous voyez qu'ils ne sont pas exactement pareils, parce que Arnégonde est morte très âgée, elle avait plus de 60 ans. Quand elle était jeune, on portait une seule de ses broches, et puis quand elle est devenue âgée, la mode était en porter deux. Donc, elle s'en est fait faire une deuxième. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même qualité. Les provenances des pierres précieuses n'étaient pas la même. Quand elle était jeune, on pouvait encore faire venir des pierres précieuses du Rajasthan. Et puis après, elle venait du Portugal. Donc, c'est un signe de coquetterie, mais c'est quand même un objet très, très personnel. Ce n'est pas un bijou indifférent. C'est quelque chose qu'elle a fait faire pour elle, sûrement, dans son grand âge, et on l'enterre avec. Quant à la broche qui servait à attacher son manteau, la broche a été restaurée 8 fois. Donc, c'est un objet auquel elle tenait beaucoup. Et on l'a enterré avec un objet auquel elle tenait beaucoup. Donc là, il y a quand même une attention, qui est une attention vraisemblablement très personnelle à l'égard de la défunte. À partir de la fin du 7e et du 8e siècle, on n'enterre plus les défunts avec des objets. Alors pendant longtemps, les historiens ont une interprétation qui était une interprétation purement d'histoire des religions. En gros, ils étaient païens avant, donc ils pensaient qu'ils arrivaient au panthéon germanique avec tous leurs objets, et après ils sont chrétiens, et donc ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'objets pour aller au paradis. Aujourd'hui, on pense que c'est en fait un changement et de mode. La société évolue, il n'y a plus besoin d'apparaître dans la tombe avec tous ces objets au moment des funérailles. Et puis c'est aussi un changement de pratique liturgique. Les nouvelles prières qui se font à partir du 7e et surtout à partir du 8e siècle insistent beaucoup au moment des funérailles sur l'idée que, à la fin des temps, le mort va se lever de sa tombe et voir la parousie du Christ. Et vous voyez dans la tombe que les défunts sont désormais posés tous la tête vers Jérusalem. Et vous voyez cette orientation qui s'opère dans les cimetières. Donc les cimetières changent de forme. Vous voyez les tombes qui apparaissent, désormais les tombes ouest-est. Et vous voyez que la tête des défunts est calée désormais. Parce que comme le Christ va apparaître à l'est, il faut qu'au moment de la parousie, le défunt puisse, au moment de la résurrection de la chair, immédiatement voir le Christ. Vous voyez également qu'il n'y a plus de sarcophage. il y a un système simplement avec une planche et quelques calages pour que le défunt puisse, hop, tout de suite, lever. Parce qu'un sarcophage, c'est très lourd. Hein. Alors, c'est un peu frustre comme forme de spiritualité, mais c'est extrêmement intense. Et voyez que le calage des défunts, la position des défunts est très aménagée. Donc là, il y a quand même une personne, il y a un individu pour lequel on va véritablement travailler. Cette attente de l'apparition du Christ, ben, vous la voyez très bien, avec de plus en plus de calage, de plus en plus de soins, pour pas s'occuper du corps désormais, c'est s'occuper de la tête. C'est la tête qui doit vraiment être en bonne position pour profiter de la vie. Et puis, malheureusement, ça ne dure pas, parce qu'au XIIe siècle, vous savez que l'universitaire parisien, il ne faut jamais faire confiance aux universitaires parisiens, c'est toujours rien, invente le parapurgatoire. Et alors, quand le purgatoire arrive, ben, ça a moins d'importance. Parce que les âmes partent en attente au purgatoire, et le traitement des défunts devient beaucoup plus sommaire au XIIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces calages céphaliques, et puis vous allez avoir même des charniers. Bon, ça veut dire aussi que c'est notre pensée chrétienne. On revient plus à saint Augustin qui disait que le traitement des cadavres n'avait aucune importance. Mais ça veut dire aussi que là, ben, vous avez l'individu qui perd peut-être aussi du sens au XIIe siècle, curieusement, au moins en contexte funéraire. J'ai tenu à peu près les trois quarts d'heure qui m'étaient impartis. Donc, je ménage quand même ma conclusion, même si elle ne rapporte pas beaucoup de points, vous savez, généralement. Pour ceux qui passent l'agrégation, ils ne perdent pas de temps, ça. Ma conclusion, c'est quand même de dire que si je cherche la personne au Moyen-Âge, je la trouve, évidemment, mais ce qui est une personne au Moyen-Âge, c'est un individu qui est responsable légalement. Or, la différence entre le légal et le sacramentel n'est pas très nette jusqu'au XIIe siècle. Le sacrement est un processus de droit romain. C'est un serment fait devant les hommes et devant une autorité. C'est l'autorité de Dieu, bien entendu, mais c'est fondamentalement un processus juridique. Ce qui veut dire que quand vous cherchez la personne qui parle en son nom, la personne que l'on doit entendre, la personne qui doit dire « je », c'est une personne sacramentelle. Alors, vous en avez un témoignage qui peut être intéressant, c'est les premiers textes que vous avez en langue germanique. Alors, on a quelques inscriptions, mais qui font un mot jusqu'au 8e siècle. Le premier texte un peu long en langue germanique, ce sont des interrogations baptismales. Lorsqu'on convertit les gens en prime, on leur pose les questions liturgiques du baptême. Or, il faut que les personnes répondent. En tant que personne, pas en tant que groupe social, il faut que chacune réponde. Or, elles ne parlent pas latin. Elle ne parle pas les langues romanes. Donc, pour la première fois, on va traduire un texte sacramentel dans une langue qui soit une langue qui ne soit pas une langue sacrée. Et là, vous voyez apparaître un texte. Alors, ça ressemble à du vieux flamand. Hein, Forchis tu diabolae, est-ce que tu renonces au diable? Et il faudrait qu'il réponde. Et forcho diabolae, et alum diabolgae, est-ce que tu renonces au démon? Respondeat, quand même pour le prêtre, on le met en latin. Hein, qu'il réponde, et je renonce au diable. Et est-ce que tu renonces aux autres diables? Et c'est là que vous voyez apparaître pour la première fois, est-ce que tu renonces à Wotan, c'est-à-dire à Odin, à Thunar, c'est-à-dire à Thor, et à tous les autres dieux du Panthéon. Et c'est dans ce texte-là que vous voyez pour la première fois les noms des dieux du Panthéon germanique mentionnés. Finalement, le groupe existe, la personne existe, chacun joue un rôle différent. Le groupe existe parce qu'il est souvent responsable de la personne. Pensez au rituel baptismal. Quand est-ce que la personne peut répondre aux interrogations baptismales? Quand elle est adulte. Or, l'histoire du Moyen-Âge, c'est une progression permanente du pédobaptême. Et très rapidement, les gens ne répondent plus aux interrogations baptismales. C'est le parrain qui répond aux interrogations baptismales. Et donc, le parrain se substitue à la personne, parce que le parrain, c'est le groupe social. Le parrain, c'est le premier des protecteurs. C'est aussi le premier des vengeurs, si jamais il y a une situation de problème. C'est pas pour rien que la mafia a inventé la notion de parrain. C'est aussi ce groupe qui entoure pratiquement, physiquement, violemment parfois, mais aussi spirituellement, et qui va guider vers Dieu. Et donc là encore, vous voyez, le problème, c'est où trouver la personne. Et puis, dernier point qui est peut-être plus émouvant, c'est de dire que vous avez des personnes plus faibles. Alors, vous avez les pauvres, vous avez tout ça, mais le Moyen-Âge est extrêmement sensible à la faiblesse physique. Le handicap, c'est quelque chose qui est pris en compte très tôt au Moyen-Âge. Et là, c'est peut-être un progrès indiscutable de la pensée chrétienne. C'est-à-dire que le handicap, dans tous les textes et dans toutes les traces que l'on peut avoir, ça fait que la persona est particulière et qu'elle mérite une attention supérieure. Elle n'est jamais dévalorisée. Au contraire, elle est mise en avant. Alors, je termine sur ces deux images qui sont peut-être assez émouvantes, deux personnes différentes. Vous avez la personne du malade dans la règle de Saint-Benoît. Le malade, on va le faire participer au groupe. C'est pas parce qu'il est malade ou qu'il est handicapé qu'il n'aura pas un métier, qu'il n'aura pas de la prière, qu'il n'aura pas de la lecture, mais on lui en donnera moins et on va adapter. Et l'abbé doit avoir des égards pour la faiblesse. Donc ici, vous avez cette adaptation permanente de la règle de Saint-Benoît à des situations particulières. Sur un plan purement archéologique, ici, je termine sur une tombe parisienne. Alors, vous voyez ici un défunt dont vous devinez que les fémurs sont de taille complètement différente. Ici, c'est quelqu'un qui a souffert d'une poliomyélite extrêmement avancée. Il devait être très lourdement infirme, ne pouvant vraisemblablement pas marcher, et avec une jambe qui était complètement pliée. Vous voyez que la tombe a été adaptée à sa morphologie. On n'a pas essayé de tirer sur le membre malade, on l'a adapté, on a vraisemblablement posé un coussin pour qu'il soit le plus confortablement posé. Vous voyez également qu'il y avait une scoliose assez avancée, donc c'est quelqu'un qui toute sa vie a été entouré. C'était une persona faible, mais elle a été ménagée, et la tombe est relativement luxueuse pour son temps, c'est-à-dire que on l'a mis dans une position finalement plus favorable que si c'était un valet. Donc, ma conclusion, c'est que la personne ou le groupe, c'est un peu les deux revers d'une même médaille. Si vous voulez dire qu'au Moyen-Âge, il n'y a que le groupe, évidemment, la personne ici, ce n'est pas enterrée toute seule. Ce n'est pas elle qui a survécu toute seule. On l'a aidée. Mais si vous voulez voir la personne, vous pouvez considérer que certaines personnes, évidemment la personne du Christ, des personnes juridiques, des personnes de grands auteurs, de grands poètes, mais aussi des personnes particulières dans la société ont suscité l'intérêt, et un intérêt qui transcendait le groupe. Donc vous choisissez entre les deux côtés de la médaille, sachant que si vous coupez la médaille en deux, vous retombez sur deux médailles, et le groupe et la personne continuent d'exister toujours en permanence. Merci beaucoup. Merci.
Cette conférence, peut-être une question sur la place de la personne, la conception de l'individu, dans tout ce qui peut être les relations amoureuses ou courtoises. Est-ce qu'on a un peu des sources, des informations là-dessus ?
Disons qu'il y a le mariage. Le mariage, c'est tout sauf une affaire de sentiments. Déjà une affaire d'identité, de gros sous et de famille. Si en plus on met des sentiments, vous vous rendez compte du problème. Donc non, il y a des sentiments amoureux. On a, alors, les mérovingiens ont un esprit très organisé, si vous voulez. Ils aiment faire des formulaires, donc on n'a pas de lettres d'amour, mais on a des formulaires de lettres d'amour. Donc ça doit exister, et c'est la lettre d'amour en blanc, donc mettez le nom. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Si vous êtes vraiment très très amoureux, de toute façon, vous êtes soit à niveau social égal, ça ne pose pas de problème. Saint Colomban dit notamment, si deux personnes sont amoureuses, et se marient alors que la famille ne veut pas, bon, ils font pénitence pendant 2 ans, il ne faut pas exagérer, mais finalement, on peut les marier. Mais si vous êtes amoureux de quelqu'un qui est beaucoup plus élevé que vous, voilà. Alors là, vous êtes obligé de tenter le rapt. Le rapt, c'est une procédure, mais ce n'est pas légal, c'est plus dangereux, et vous finissez souvent mal.
Merci.
Oui ?
Moi, j'ai une question concernant les représentations de Bénissaire, de Justinien ou de Théodora. Qui me semble avoir des figures dans l'iconographie particulières. Et donc, est-ce que c'est qu'on les a représentées de manière générique, mais quand même un peu unique, ou est-ce qu'il y a...
Oui. C'est la même mosaïque, voilà.
Oui, mais donc, c'est eux ont le droit d'être...
Oui, alors les mosaïques de Ravenne sont un apax. C'est unique, vous avez raison. Justinien est très individualisé, Théodora peut-être un petit peu moins. Mais Maximianus l'est aussi. C'est difficile à expliquer. À Ravenne, au VIe siècle, il y a un tout petit retour de l'art du portrait. Mais tout petit, très discret. Et à Rome, on a peut-être aussi l'équivalent pour le VIe siècle. On a quelques fresques, notamment une fresque qui représente Saint-Augustin, qui vise peut-être au réel. Mais ça ne dure pas. C'est vraiment très particulier. En fait, ici, c'est montrer que Constantin, Justinien, tous ces gens-là sont les vrais héritiers de Rome. Et donc, on recommence à faire l'équivalent du portrait Flavien. Mais ça dure vraiment très très peu. Quant à Maximianus, je me demande s'il ressemble vraiment à ça. Par mon père.
C'est pas vrai,
parce que ici, c'est la représentation de saint Paul, hein, en fait. Saint Paul est toujours représenté comme chauve. Vous savez que saint Paul se présente comme l'avorton de Dieu et il dit « je suis laid, je suis tordu, je suis chauve ». Bon, on garde iconographiquement seulement le fait qu'il soit chauve. Et là, je me demande si c'est pas une volonté d'identifier. Bon, il était peut-être vraiment chauve, hein, j'en sais rien. Ça arrive à tout le monde, mais... c'est quand même tellement proche du code iconographique de représentation de saint Paul depuis le IVe siècle qu'on peut se demander si c'est un vrai portrait. Même chose pour Justinien. Justinien, c'est un portrait, mais presque idéalisé. Il est magnifique, Justinien. Alors, si vous réfléchissez à la description qu'en fait Procope, c'est pas exactement ça. Il a eu la peste, il a eu le cou complètement déformé. Enfin bon, c'est pas ça qu'on montre sur la mosaïque. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très beau, hein, ce mosaïque de Rabot. Oui.
Est-ce qu'on a des traités mystiques au Moyen-Âge qui manifesteraient déjà une conception de la personne devant Dieu ?
Peu, parce que les Occidentaux sont pas des mystiques. Il y en a en Orient, hein. Les Occidentaux ont une pensée très pratique. Hein. Vous avez vu, le tribunal de Dieu, c'est le tribunal terrestre, d'une certaine façon. Simplement, il y a la considération de personne qui n'est pas là. Il y a des récits mystiques, hein, de visions au seuil de la mort, mais à chaque fois, c'est une approche très pragmatique, en fait. Hein. Donc, c'est pas la personne devant Dieu, c'est comment y arriver avec le maximum de chance. Et donc, c'est pas mystique, si vous voulez. Alors, on en aura à la fin du Moyen-Âge. On aura des grandes mystiques. Pour le premier Moyen-Âge, c'est pas moi devant Dieu, c'est moi justiciable devant Dieu. Et c'est autre chose. Ce qui est une autre logique, hein, c'est une spiritualité qui fonctionne aussi. C'est à cette époque-là qu'on théorise exactement ce qu'il faut faire, les œuvres. Vous avez Maxime de Turin qui dit, ben oui, il faut donner aux pauvres. Si vous voulez obtenir un jugement positif d'un juge terrestre, vous graissez la patte. Le pauvre, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Vous payez les pauvres, vous obtenez un jugement favorable. Si vous voulez, ça, c'est pas mystique. Et ça fait quand même beaucoup de bien à la société, hein, parce que les pauvres sont assistés. Mais c'est tout sauf un raisonnement mystique, de mon point de vue. C'est. Il y a une de mes collègues qui a beaucoup travaillé sur le vocabulaire utilisé dans les monastères avant 1100. Parce que vous savez, le mot le plus utilisé dans les chartes monastiques. C'est profit. C'est le profit de l'âme, hein, attention. Mais tout le vocabulaire économique est appliqué. Donc, c'est pas de la mystique, je pense. Sauf ponctuellement. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques, notamment des femmes qui ont des visions qui sont mystiques et des voyages en au-delà qui ne sont pas uniquement économiques. Oui, pardon, je sais pas. Oui, je crois que c'est plus.
Qu'est-ce qu'on fait du voyageur étranger, de l'étranger qui est tout seul?
Alors, c'est compliqué. L'étranger, s'il est pèlerin, c'est-à-dire s'il fait son voyage pour Dieu, c'est très légal. Il y a une protection du pèlerin.
C'est l'individu.
Ah oui. Alors là, je ne sais pas si c'est l'individu. C'est le pèlerin. C'est-à-dire vous avez un statut social. Pérégrinos, on sait très bien ce que c'est. Si vous déclarez pèlerin, vous avez droit à l'équivalent du duty free, c'est-à-dire vous ne payez pas de taxes, c'est quand même intéressant, et la libre circulation. Et vous avez des lois de Charlemagne disant, attention, on vérifie, il n'y a pas que du déclaratif, il faut bien vérifier que c'est des vrais pèlerins, parce qu'il y a des marchands qui sont passés pour des pèlerins pour en profiter. Donc, je suis pas certain. Alors ensuite, est-ce que c'est une personne à l'arrivée? Oui, il y a une relation, notamment dans le culte des saints, une relation personnelle. Mais on est souvent pèlerin pour quelqu'un d'autre, hein, aussi. Si vous pensez à Compostelle, beaucoup de gens vont au nom du groupe social. Et donc, ce n'est pas une démarche tout à fait personnelle. Tous les gens qui s'appellent Jacquet en France, c'est des pèlerins professionnels, hein, c'est leurs ancêtres. C'est des gens qui allaient sur les chemins de Saint-Jacques au nom du village, au nom de la communauté professionnelle. Et donc, voilà. Où est le groupe? Où est la nuit? C'est toujours le problème. Oui.
Je sais que pour une période un peu plus tardive du Moyen-Âge, il y a aussi un usage vraiment ecclésial de la notion de persona, c'est-à-dire un fidèle, en tant qu'il est fidèle, peut être qualifié de persona, et puis aussi en rapport avec la personne du Christ, quand on dit que le prêtre agit sacramentellement in persona Christi, Et je me demandais si ça existait aussi pour le au Moyen-Âge.
Alors non, vous voyez pourquoi je me suis prudemment arrêté avant le 12e siècle, parce qu'effectivement, fin 12e, 13e siècle, évidemment derrière la pensée thomiste, hein, là il y aura une réflexion très profonde sur la persona. Mais finalement, souvent on pense à ce Moyen-Âge comme étant le Moyen-Âge de Saint Thomas, le Moyen-Âge de l'université, mais c'est très court en fait, c'est 12e, voilà. Toute fin du 12e, ça commence, 13e, et puis tout ça s'arrête dès 1270. Hein. Donc il faut se dire que le Moyen-Âge, c'est un millénaire, et que pendant les 7 siècles avant, on a pensé différemment. Et qu'évidemment, la fin du Moyen-Âge, on va avoir des idées géniales, et on va faire une théologie brillantissime. Mais c'est finalement très peu de choses par rapport à une pensée occidentale qui est robuste, efficace, simple, vous allez me dire, peut-être un peu simpliste, barbare, mais enfin qui a pour but d'amener tout le monde au paradis. Et oui, donc ça apparaît plutôt à la fin du Moyen-Âge.
Oui. Moi justement, ma question c'était plutôt sur la fin du Moyen-Âge. Est-ce que, vous nous avez parlé de la persona juridique, en gros, et plutôt l'appartenance au groupe social. Et du coup, j'avais l'impression que la fin du Moyen-Âge, c'est aussi le côté développement de la mystique et révolution de la charité d'André Boucher. Est-ce que ça s'accompagne aussi d'un changement dans la considération juridique des personnes?
Alors, oui et non. Le droit évolue quand même relativement lentement au Moyen-Âge. Alors, c'est vrai qu'il y a des scansions importantes. La redécouverte du droit justinien qui s'opère fin 11e, 12e siècle, c'est important. Mais il n'y a pas de révolution, finalement. En gros, le droit romain survit très bien. Si vous prenez le code civil actuel, c'est encore 60% de droit romain. Donc, il n'y a pas de révolution dans les concepts, je pense, juridiques. Par contre, dans les pratiques et dans la spiritualité, là, vous avez raison, André Boucher a fait un travail remarquable, il y a une spiritualité qui se modifie profondément à plusieurs reprises. Mais là encore, si vous voulez, je prends toujours la même idée, c'est qu'elle se modifie finalement dans les trois derniers siècles du Moyen-Âge. Les cisterciens commencent à faire évoluer. Il y a une mystique cistercienne très intense, il n'y a pas de doute. Mais cette intériorisation et cette individualisation de la rencontre avec Dieu, finalement, c'est la dévotion moderna du 15e siècle. Et quand on est dans la dévotion moderna, je suis plus chez moi, si vous voulez, c'est plus du Moyen-Âge, c'est autre chose, ça annonce beaucoup d'autres choses. Mais finalement, qui adhère à la dévotion moderna, même au 15e siècle, hein? Alors souvent on dit oui, bon, les bourgeois, mais enfin, regardez les traités, les inventeurs de bibliothèques, c'est une très haute société, hein, c'est 16e siècle, oui, il y aura beaucoup plus de gens qui vont adhérer à ça, évidemment la réforme protestante va se nourrir aussi de ça. Mais le Moyen-Âge, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la rencontre aussi individuelle avec Dieu. Parce qu'il faut aussi se dire, on a vécu toute la vie en société, hein, tout le groupe entier. La règle de Saint-Benoît, c'est pas un moine qui va partir tout seul à la rencontre de Dieu, c'est tout le monde ensemble. Si vous pensez aux moines irlandais, alors les moines irlandais, eux, ils partent tout seuls à la recherche de Dieu. Mais les règles irlandaises, elles n'ont aucun succès sur le continent. L'idée qu'on part tout seul, non. Pour les occidentaux, c'est en groupe. On monte peut-être pas très haut, mais on y va ensemble. Et je crois qu'il y a quand même une sorte de frein social, c'est-à-dire que les gens qui vont vouloir partir tout seul ou toute seule, les béguines, etc. Et encore, les béguines, c'est un groupe. Hein. Mais les gens qui vont vraiment être dans la recherche directe, intime, ils vont toujours être suspects. Bon, si j'ai un brigand, c'est quelqu'un qui va être à la limite. Hein. La mystique rhénane, c'est vraiment de l'individu. Mais combien de personnes sont concernées? Ah, évidemment, vous allez me dire, il y a Dante. Mais Dante, c'est quand même quelqu'un de particulier.
Une dernière question peut-être.
Oui, vous montriez donc que la notion de personne est au fond une notion juridique, qu'elle soit dans la juridiction terrestre ou sacramentelle, au fond, que les deux se ressemblent assez. Est-ce que pour autant, il y a une notion concurrente pour parler, au fond, de la présentation de l'individu à Dieu, mais hors d'un système juridique? Qu'il y a des termes, notamment latins, qui pourraient... En quoi l'homme se présente devant Dieu, sinon... Est-ce que c'est justement en tant que anthropos ou homo, ou est-ce que c'est pas comme créature? Vous voyez, est-ce qu'il y a...
Alors, je
sais pas, en tant que personne.
Je suis pas sûr qu'il y ait des concepts uniques. Ça mériterait l'étude, là, vous voyez, parce que on a, à partir du 7e siècle, ces récits de voyages en au-delà qui vont se multiplier, ou de visions sur le lit de mort, et effectivement, là, il y a parfois la rencontre. Mais en Occident, ce n'est pas souvent la rencontre avec Dieu. C'est l'accès au paradis. Donc vous avez une description des lieux éternels. Je suis désolé, les Occidentaux sont vraiment très terre-à-terre. Il faut qu'en gros, on leur explique le plan. Et voilà, c'est en gros, c'est dans quelle direction, il y a quoi au paradis, il y a quoi en enfer, comment on passe d'un lieu à l'autre. Et le paradis, c'est le paradis. Dieu y est, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de dire, il y a une vision béatifique. Mais ce qui compte surtout, ben, c'est beau, c'est lumineux, c'est chaud. Alors, c'est ça qui nous étonne beaucoup, mais c'est que Moyen-Âge, le climat a un certain effet hein, sur les lieux éternels. L'enfer, globalement, il est froid et humide. Hein. Parce que c'est ça dont on souffre beaucoup. Et il deviendra chaud, mais voilà. Donc, je ne suis pas sûr que cette rencontre mystique, elle existe tant que ça. Alors qu'en Orient, je pense que vous auriez raison. En Orient, et à partir de la fin du Moyen-Âge, une fin qui peut commencer très tôt, hein, mais enfin très tôt, à partir du 12e, 13e siècle, déjà chez Saint Bernard, on a vraiment une rencontre intime avec Dieu. Là, je ne suis pas sûr que Maximianus soit dans une démarche intime avec Dieu. Si vous voulez, les seules traces que je peux avoir d'intimité avec Dieu, ce qu'on a par exemple dans la vie de Saint-Germain de Paris, donc le grand évêque de Paris qui donne son nom à Saint-Germain-des-Prés, c'est l'idée qu'il prie de façon tellement intense qu'il est capable de forcer Dieu. Alors, ce qui est bizarre hein, comme concept pour nous. C'est-à-dire que Dieu a pris une décision, que tel malade allait mourir, et les vertus de Germain sont tellement intenses qu'il peut forcer Dieu. Alors, c'est une vision très terre-à-terre, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde sait comment le tribunal royal fonctionne. Le tribunal royal, les évêques qui vont en permanence pour demander l'avis pour les condamnés à mort. Ou pour les condamnés du fisc. La mort et les impôts sont les deux certitudes dans l'existence. Donc, vous voyez cet évêque terrestre qui est capable parfois d'obtenir des choses hors du commun du roi qui dit « bon allez, c'est bon ». Alors que le roi a déjà pris une décision. Et je crois que c'est ça, comme ça. C'est ça, en fait, la rencontre avec Dieu. C'est un juge qui est à la fois terrible, mais capable de se laisser fléchir.
Mais ensuite, encore, c'est dans sa fonction. En fait, c'est plus dans sa fonction d'évêque.
C'est dans sa fonction d'évêque. D'accord. Et du côté de Dieu, c'est dans sa fonction de juge.
D'accord. Ouais.
De juge ou de protecteur. Ou de... Et en fait, je crois qu'il y a derrière la personne, c'est ça, c'est des rôles. En fait. Et que chacun joue un rôle. Alors parfois, on en sort. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez des choses qui vont sortir du rôle. Mais la relation n'est pas, de mon point de vue, quelque chose qu'on appellerait mystique. Elle a pu exister, mais si elle a existé, ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Parce que ça n'intéresserait pas les lecteurs de savoir que les gens ont eu un contact mystique avec Dieu.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.